bonjour à tous. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Et vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel, présenté aujourd'hui par Serge et Eric, en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Anian. Bonjour Serge.
Bonjour Eric.
Alors je vous rappelle que la dernière fois, la précédente émission avait pour sujet les rapports entre l'astronomie et l'astrologie. Et j'en profite pour vous rappeler que vendredi soir, à l'Observatoire d'Anian, aura lieu une soirée spéciale consacrée effectivement à l'astronomie et à l'astrologie, deux disciplines qui peuvent tout à fait être... disons voisine, et expliquer sur les lieux d'observation. Donc rendez-vous sur notre site observatoiredanian.com pour tous les détails et les réservations. Un petit rappel aussi, avant de passer la parole à Serge, sur l'actualité du moment, c'est-à-dire notre fameuse comète C2023A3, Tsuchinshan Atlas. C'est un nom un petit peu imprononçable, mais bon, elle est là, elle a fait la grande vedette de l'été et notamment de l'automne. Elle est toujours là, mais beaucoup moins brillante car elle s'éloigne de nous. Actuellement, elle a une magnitude d'à peu près 7,4, c'est-à-dire qu'elle baisse, on la voit beaucoup moins, et il faut un appareil, des jumelles, des bonnes jumelles ou un appareil astronomique pour la regarder. Elle se situe toujours dans la constellation d'Ophicus. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va encore parler des objets qui bougent et qui se déplacent dans notre système solaire, à savoir les astéroïdes. Et notamment, on va parler d'une mission bien particulière aussi, qui a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps, c'est la mission DART. Et pour en parler, je vais laisser tout de suite la parole à Serge.
Merci Eric. Alors, je vais vous donner des nouvelles de la mission DART. Alors, qu'est-ce que la mission DART ? Eh bien, à la fin des années 2000, la NASA a décidé de tester pour la première fois une méthode, alors non pas pour détruire un bolide céleste, c'est-à-dire un astéroïde, mais plus pour modifier sa trajectoire. Et donc, fin des années 2000, on a fait décoller une fusée avec un module et un impacteur. Et nous sommes donc le 22 septembre 2022. Et donc l'impacteur décolle de son module pour aller se fracasser contre un petit objet céleste qui est sans danger pour nous, mais qui est là pour voir si la mission vraiment est réaliste. C'est une mission test inédite. Et donc, cette mission est surtout pour permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une éventuelle menace future. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Il y avait déjà eu un projet qui s'appelait le projet Icarus. C'était un projet qui datait des années 60. C'était le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui avait mis au point ce projet. Mais c'était un projet de trop grande envergure. Il fallait entre 7 et 10 fusées type Saturne V. Hein, ce sont les fusées qui ont emmené les hommes sur la Lune. Et on les équipait d'ogives nucléaires. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les films de science-fiction type Deep Impact, ou alors Armageddon, ou alors Astéroïde. Voilà. On équipe des fusées, on met des bombes atomiques et on les fracasse sur des objets. Mais on s'est aperçu que déjà ça coûtait beaucoup d'argent, et peut-être pour rien, parce qu'aujourd'hui on se serait aperçu que ces fusées n'auraient jamais décollé. Donc fin des années 80-90, le MIT a commencé à changer d'objectif et se dire, si on envoyait quelque chose taper un astéroïde. Et donc le projet DART a été mis en place et il a décollé. Et donc, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est une réussite. Il a réussi, cette mission a réussi à modifier un astéroïde de sa trajectoire. Alors, l'impacteur, ce n'est pas quelque chose d'énorme, il fait 580 kilos. Il est parti à la vitesse de 24 000 km/h, mais simplement, il a tapé hein, cet objet hein, qui s'appelle Dimorphos. Alors, DART, ça veut dire Double Asteroid Research Test. C'est-à-dire qu'on a trouvé un objet qui se trouve à peu près à 11 millions de kilomètres. On a envoyé une fusée et on l'a fait taper par un impacteur. Et après, ben, on voit les résultats. Alors, en attendant, ben, on a constaté que la mission est un succès. Parce qu'on a vu, James Webb a constaté les éjectats. Et donc c'est une réussite. Alors, l'objet n'est pas très gros. Hein, il fait 160 mètres de diamètre. Là, l'endroit où il est, il ne représente quasiment pas de danger pour la Terre. Hein, 11 millions de kilomètres, bon, c'est très loin. Mais le but, eh bien, c'est de tester le scénario catastrophe et de voir si bah, c'est possible de faire... quand on tape un objet céleste, de le faire dévier de sa trajectoire. Et donc, contrairement au scénario qu'on a constaté, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé des films de science-fiction, hein, la NASA enverra, selon la taille des objets qui sont autour de nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des objets célestes, il y en a plein qui gravitent autour de nous. Ils viennent de la ceinture d'astéroïdes, donc par effet gravitationnel, bah, comme on appelle aussi l'effet de billard, ils se tamponnent et ils s'écartent, et ils arrivent aux alentours de la Terre. Et donc on veut se protéger de tous ces engins. Et donc la mission DART avait l'objectif de pouvoir voir comment se comportait cet impacteur. Alors après, bah, il reste à savoir la taille. La vitesse, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais surtout, ce qui est important, c'est de faire le constat visuel que cette mission est recevable. Alors, nous, ce qu'on ne veut pas faire, contrairement au film, c'est fracasser, c'est détruire l'astéroïde, parce que vous comprendrez bien que si on envoie une bombe atomique sur un astéroïde, en plusieurs, on va le fractionner en plusieurs morceaux. Ça peut être dangereux. Hein. Un seul morceau pas très gros peut faire un impact ou même pas d'impact s'il tombe en mer. Mais comprenez bien que si on le casse en 3-4 morceaux, ça peut faire beaucoup de dégâts sur la Terre. Alors, le but de la mission DART, eh bien, c'est simplement, en envoyant un impacteur, de faire, on pourrait dire, une pichenette, un petit coup de pouce. Hein, suffisamment puissant pour le faire dévier. Hein, l'objectif, c'est de modifier sa trajectoire. Et là, Dimorphos, c'était relativement loin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 11 millions de kilomètres. Plus il est loin, plus on a le temps de le voir, et plus on a le temps d'intervenir dessus, plus on a le temps de se préparer. Et plus l'objet est loin, hein, si on prend par exemple, on arrive à le dévier ne serait-ce que d'un degré, un degré multiplié par 11 millions de kilomètres, ça fait plusieurs millions de kilomètres dans lesquels il va passer au-delà de la Terre. Donc, on peut voir que c'est pas mal, ça marche bien. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est selon la taille des astéroïdes qu'on va avoir autour de nous. Hein, leur constitution aussi est importante. Si c'est un astéroïde rocheux ou un astéroïde ferreux, on ne pourra pas l'équiper du même impact. Mais c'est déjà un premier test. Ça a marché. La NASA est content. Et donc tout ce qui a été mis en place n'apporte que de bons résultats. Pour l'instant, donc, on va continuer. Hein. Il y a d'autres projets qui vont être mis en place. Hein. Le projet ERA aussi, qui va partir de fin 2025, début 2026, eh bien, à peu près cette même idée, hein, associée toujours à la NASA. Et donc, il y a quand même une question qu'on se pose. C'est une question importante que se posent eh bien, les scientifiques. Pour se protéger, de combien de degrés hein, faut-il pour vraiment voir passer ce bolide au-delà de la Terre. Alors c'est la question. Maintenant, pour l'instant, avec Dimorphos et Didymos, on n'a pas pour l'instant toutes ces informations. On sait que ça a fonctionné, mais on ne sait pas de combien de degrés. Affaire à suivre.
Alors si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Euro et RPH Sud, vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté aujourd'hui par Serge et Eric, en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Anian. Et aujourd'hui, nous parlons des astéroïdes et notamment de la mission DART. Serge, tu nous as expliqué un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette mission. Alors, il faut savoir aussi, alors je ne sais pas si tu as vraiment terminé sur le sujet, mais il faut savoir que le DART aussi est né de la volonté de rechercher ces petits corps. Et cette volonté, en fait, elle n'est pas si ancienne que ça, puisque là, je vais vous parler un petit peu d'histoire. C'est un petit peu ma matière fétiche en matière d'astronomie. L'idée de rechercher les petits corps du système solaire est relativement récente. En fait, elle a commencé dans les années 70 avec un couple, Jane et Caroline Shoemaker, deux Américains, qui ont remarqué l'absence de données sur ces petits corps et décident quand même de s'intéresser à eux en essayant de les rechercher. Alors à l'époque, comment on fait ? Eh ben, on prend des photos de certaines régions de notre système solaire et à différents intervalles de temps, entre une heure et deux heures d'intervalle, et on compare les deux photographies. Alors au départ, Jane Shoemaker est tout seul. Donc comme il est bien occupé également, son épouse, elle, n'est pas du tout astronome. Hein. Caroline Shoemaker a commencé l'astronomie à 52 ans. Donc vous voyez, ça vous laisse, si vous êtes intéressé et si vous avez peur de vous y mettre et que vous êtes un petit peu âgé, n'ayez pas peur. Caroline Shoemaker a commencé l'astronomie à 52 ans et elle a eu des résultats particulièrement probants. On va le voir tout de suite. Fin des années 70, comme les enfants du couple sont grands et classés, elle s'ennuie et elle décide de s'intéresser un petit peu au travail de son mari. Elle commence à regarder les photos et elle se révèle assez performante là-dedans. Elle utilise aussi une autre méthode, mais elle commence à découvrir un certain nombre de choses. Et en 1982, les époux Shoemaker lancent le PAX. Alors, rien à voir avec ce que l'on connaît ici en France hein, au niveau de la vie civile. Alors, le PAX, ça veut dire le Palomar Asteroid and Comet Search. Donc, c'est la recherche à l'observatoire du Mont Palomar aux États-Unis d'astéroïdes et de comètes. Alors, Caroline y découvre un astéroïde très proche de la Terre. Donc, et en 83... elle découvre sa première comète. Alors, pour elle, c'est une révélation. Elle va découvrir, elle toute seule, 36 comètes et près de 800 astéroïdes, c'est-à-dire plus que n'importe qui à cette époque-là. Mais ce qui a marqué l'histoire de cette recherche et qui a amené justement à penser à des missions comme DART, c'est le fait qu'en 1993, elle découvre une comète qui s'appelle la Shoemaker-Levy 9 et qui va avoir un comportement un peu particulier, c'est-à-dire qu'à l'approche de Jupiter, elle va se fragmenter et venir s'écraser sur la planète Jupiter. Et là, toute la communauté astronomique assiste aux impacts sur la planète. Et à ce moment-là, on se rend compte et on prend conscience que des corps qui se promènent dans notre système solaire peuvent très bien rentrer en contact avec nos planètes. Et la Terre n'en est pas exempte. À partir de là, le PAX va prendre de l'ampleur et on va commencer à réfléchir sérieusement à savoir comment on va pouvoir à la fois éliminer le danger pour la Terre, mais également, comme la mission DART, dévier la trajectoire de ces corps qui pourraient présenter un danger, c'est-à-dire ce que l'on appelle des astéroïdes géocroiseurs. Donc, vous voyez, c'est relativement récent. Hein. On a pris conscience en 1994, quand la comète s'est écrasée sur... Alors, pour terminer sur le chapitre, il faut savoir que très récemment, alors ces petits corps sont pas inutiles. Hein. On pense même que les comètes et puis les astéroïdes sont aussi des éléments importants sur l'origine de la Terre et de la vie sur Terre. On étudie également ceux qui tombent. Parce qu'il en tombe régulièrement, quasiment tous les jours, hein, des petits corps très très petits. Et le dernier en date qui a marqué, c'est le 13 février 2023, un astéroïde qu'on appelle 2023 CX1. Oui, on a toujours des noms un peu particuliers en astronomie, et qui a impacté la Terre. Alors, je vais rapidement vous donner une petite pour vous donner une idée un peu de comment ça se passe. Hein. Il y a tout un réseau d'observations. Et puis une petite chronologie de l'événement. Alors le 12 février, c'est-à-dire la veille, il est à peu près 22h45, 23h, l'alerte est donnée par un réseau d'observateurs des petits corps. On fait une rapide analyse et on découvre un petit astéroïde de 1 mètre de diamètre, de type géocroiseur, c'est-à-dire qu'on a toutes les chances de le voir arriver sur Terre. L'entrée dans l'atmosphère est prévue à 5h du matin, le lendemain, au-dessus du nord de la France. Donc, mobilisation via les réseaux sociaux, les systèmes que l'on appelle Vigiciel et International Meteor Organization. Et à partir de ce moment-là, on va suivre ce petit morceau d'astéroïde qui va venir impacter. Pour l'instant, on parle en terminologie d'astéroïde. Lorsqu'il va rentrer dans l'atmosphère, il va devenir un bolide. C'est comme ça que ça s'appelle, dans un terme technique. Hein. C'est le phénomène lumineux qui est associé à l'entrée dans l'atmosphère de l'astéroïde. Et il est prévu à 2h59. Peu après 3h, les premières photos et les vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui a été prévu se passe comme c'était envisagé. Et là, on attaque la dernière phase, c'est-à-dire la recherche des morceaux de cet astéroïde qui seront retrouvés peu de temps après, c'est-à-dire le 14 et le 15 février. Et ensuite, on va pouvoir les analyser pour comprendre d'où ils viennent, de quoi ils sont composés et en apprendre un petit peu plus sur l'origine de la Terre et notamment l'origine de la vie. Voilà un petit peu ce qu'il fallait savoir sur ces astéroïdes, les missions qui servent également à s'en protéger. Alors, maintenant est arrivée l'heure de nos éphémérides pour savoir un petit peu ce que le mois prochain va nous réserver au niveau astronomie. Alors, il faut savoir que la nouvelle lune aura lieu le 1er décembre. Donc là, on aura un ciel bien, bien noir. Et la pleine lune, elle, se produira le 15 décembre. Elle sera surnommée la pleine lune du froid. On est en décembre, il n'y a rien d'anormal à ça. Alors, côté planète, on est dans une belle période. Puisque Mercure, alors, c'est la planète qui est la moins observable, hein, puisqu'elle est en pratique, elle n'est pas observable sous nos latitudes. Donc, il faudra aller un petit peu sur l'hémisphère sud. Vénus, quant à elle, s'observe superbement côté ouest au crépuscule. Mars et Jupiter sont superbes quasiment toute la nuit. Saturne est visible en première partie de nuit, elle est magnifique également. Et Uranus et Neptune sont également visibles, avec des instruments bien sûr, ils sont tellement loin, quasiment également toute la nuit. Le 20 novembre, la Lune et Mars sont en conjonction. C'est visible à l'œil nu et avec une paire de jumelles, le spectacle est encore plus joli. Le 4 et 5 décembre, on a une conjonction Lune-Vénus qui sera du plus bel effet. De même, à l'observation à l'œil nu et aux jumelles. Le 7 et 8, une conjonction très serrée de la Lune avec Saturne, donc ils sont très proches l'une de l'autre. Et le 14 décembre, une conjonction Lune-Jupiter à l'œil nu. Le 13 et 14 décembre également, on sera au maximum des Géminides, hein, donc une pluie d'étoiles filantes, où on en attend à peu près, selon les années, entre 100 et 120 par heure. Mais cette année, nous serons pratiquement à la pleine lune, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag et votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et on se retrouvera le lundi 16 décembre pour la dernière émission de l'année 2024. D'ici là, on vous souhaite un bon mois et de belles observations.